Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine sur Radio Présence. Les vacances scolaires de printemps sont terminées et le mois de mai se profile déjà, ce qui va nous valoir une très nette reprise sur le front des événements musicaux. Pour vous les annoncer et vous les présenter, je retrouve avec grand plaisir le fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et puis nous avons encore un invité d'honneur cette semaine, l'organiste, harmoniumiste et musicologue Emmanuel Pellapra, directeur artistique de Classique à Or, un festival qu'il a fondé avec son épouse, la chanteuse Sonia Sempere Pellapra. C'est la 10e édition cette année, elle se déroule du 18 juillet au 8 août et sa programmation a été dévoilée il y a peu. Emmanuel Pellapra va nous la présenter en seconde partie de ce numéro. Inutile de préciser que ce 10e festival a une valeur et un caractère bien particulier. Dans les médias, place à l'actualité musicale la plus récente, retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue Emmanuel Pellapra. Soyez remercié d'être venu du Lot pour être avec nous en studio. Nous allons d'abord revenir avec Serge sur le dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole, donné vendredi le 25 avril à la Halle aux Grains. Il était dirigé par le célèbre chef néerlandais Ton Koopman et il y avait deux œuvres au programme de cette soirée qui affichaient une fois de plus complet. On était à guichet fermé, Serge.
Absolument. Il était déjà venu en 2023 pour diriger vraiment une exécution qui a été mémorable du Requiem de Mozart. Alors cet élève de Gustave Leonhardt, qui est organiste, claveciniste et chef de chœur, eh bien dirigeait là dans le concert, ouvrait son concert avec donc une symphonie de Mozart, la 36e, baptisée Linz, du nom de la ville où elle a été créée, et avec des circonstances incroyables puisqu'il a dû la composer en une journée. C'est une symphonie spontanée en quelque sorte. Et là, on a eu vraiment un éclat de la direction incroyable puisque le chef a insufflé à l'œuvre une sorte de vigueur joyeuse dès le début et en même temps en équilibrant toute l'instrumentation, c'est-à-dire en permettant une transparence absolue de l'orchestre, qui est donc un orchestre symphonique, hein, effectivement. Et alors moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le soin qu'il a apporté aux nuances et avec une recherche raffinée des phrasés en particulier. Alors là, apparemment, ça lui importe beaucoup et comme il a raison. Donc on a eu droit aux quatre mouvements traditionnels, hein, avec toujours cette andante incroyable qui évoque un peu une discussion. Et puis le menuet et le trio qui était aussi magnifique. Et ce qui succédait à ce troisième mouvement, c'était surtout la volubilité du final presto. Alors, j'avais l'impression d'assister à la transposition d'un final d'opéra, un peu. C'était vraiment d'une vivacité incroyable. Et donc, le public a beaucoup apprécié, puisque ça a été très applaudi. Et en seconde partie, alors c'était un peu la part la plus importante de la soirée, c'était l'exécution du sublime Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, que en français on appelle Pergolese. Et là, à l'orchestre étaient associées les fameuses voix angéliques de la maîtrise de Toulouse, toujours admirablement préparé et dirigé par son fondateur Marc Hopstadt, donc vraiment une merveille de contribution vocale, avec deux solistes féminines, la soprano belge Ilse Ehrens et la mezzo-soprano britannique Sophie Gallagher. Ah, c'est une œuvre, il faut le dire, hein, totalement magique, toute imprégnée d'une émotion incroyable et fervente. À commencer par, évidemment, la première section qui s'appelle Stabat Mater Dolorosa, que caractérise cette série de dissonances, autant de blessures qui apparaissent, donc qui sont d'une merveille absolue. Alors là, les choix des tempi, des phrasés, des nuances, de la direction. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ça souligne en même temps la continuité du discours et des différents affects qui s'opposent ou qui se succèdent. Alors, les interventions solistes, elles s'intègrent parfaitement. J'ai surtout aimé le timbre lumineux de la soprano qui émeut dès sa première intervention, dans laquelle la voix vraiment s'intègre aux cordes et traduit le texte comme par des sanglots. C'est vraiment très beau. J'étais un peu moins séduit par la mezzo-soprano, dont le registre grave N'est pas projeté.
Les graves et le bas médium, il n'y avait plus grand-chose.
Hein. Et non, c'est ça. Alors, c'est un peu dommage. Hein. Et pourtant, lorsqu'elle chante en duo avec la soprano, c'est bien meilleur.
Oui.
Donc, c'est plus proche. Et d'ailleurs, le soliste Oquam Tristis, le duo, pardon, Oquam Tristis, a constitué vraiment un des grands moments de cette expression musicale de la douleur. Donc, très beau moment qui vraiment a ému, je crois, l'ensemble de la Halle aux Grains. Et donc, l'ovation, une véritable ovation, hein, explosée à la fin de la main. On a pu observer que le chef n'arrêtait pas de remercier chaque pupitre, se déplacer au sein de l'orchestre pour aller serrer la main des chefs de pupitre. Donc, il était apparemment très satisfait du travail de l'orchestre et avec
de la maîtrise.
Et de la maîtrise, parce qu'alors là, c'est vraiment une merveille. Il faut le redire chaque fois.
Oui, oui.
Cette maîtrise est vraiment une bénédiction.
On a beaucoup de chance d'avoir ça à Toulouse.
Oui, vraiment. Chapeau, bravo à Marc Hopstadt et pour le travail qu'il fait. Et donc, le public a tellement manifesté que l'ensemble a repris une partie à fin de l'amen conclusif pour prolonger encore le bonheur de cette exécution.
Nous allons écouter l'un des duos du Stabat Mater, c'est l'antépénultième air de l'œuvre de Pergolèse, Inflammatus et Accensus, et c'est une version où l'on entend la belle voix de la soprano belge Ilse Herrens. Inflammatus et Accensus, l'un des duos du Stabat Mater de Pergolèse, avec ici la participation d'Ilse Herrens. Notez que le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est destiné au jeune public. Il est donné deux fois le dimanche 4 mai à 11h et 16h. Ce concert est sous-titré « L'orchestre cherche et trouve autour du monde ». Retour maintenant sur le dernier concert de la saison 24-25 des Clés de Saint-Pierre. Il a eu lieu lundi à la Chapelle des Carmélites, un concert auquel participait Jean-Sébastien Borsarello, notre invité de la semaine dernière, et qui proposait un programme de trio avec piano intitulé « Souvenirs d'Europe centrale ». Nous y étions tous les deux, Serge, et je vais vous demander de nous rappeler d'abord qui étaient les deux musiciennes que l'on a pu entendre aux côtés de Jean-Sébastien Borsarello, qui officiait exceptionnellement au piano lors de ce concert, parce que je le rappelle, c'est le timbalier solo de l'Orchestre du Capitole.
Mais oui, mais qui est aussi pianiste.
C'est même son instrument
avant tout
pianiste. Ah oui, bien sûr, c'est son instrument de base.
Oui, exactement. Et ça se sent parce qu'il joue joue très bien. Donc, il était associé à Laura Jaillet, violoniste, et Aurore Dassès, violoncelliste. Alors, pour ma part, j'ai beaucoup aimé le jeu acéré de la violoniste, un jeu très précis, très vif.
Et très engagé aussi.
Très engagé. Et puis, la magnifique sonorité, l'ampleur, la rondeur de la sonorité du violoncelle de Aurore Dassès. Vraiment, c'était un très beau trio qui étaient réunis là pour les trois œuvres qui ont été...
Oui, on sent qu'ils ont bien travaillé avant le concert.
Ah oui, absolument.
C'était très bien équilibré.
Et puis, on retrouve toujours dans ces concerts de musique de chambre des musiciens de l'Orchestre National du Capitole. On retrouve bien la cohésion qu'ils ont acquise par le jeu de l'orchestre. Et donc, elle se retrouve au niveau de la musique de chambre. Et je suis sûr que leur pratique de la musique de chambre leur sert
bien sûr,
la pratique orchestrale, donc, qui est la leur, la plus courante, évidemment. Alors, le concert a débuté avec la Sonatensatz Deutsch 28 de Franz Schubert, qui est une œuvre de jeunesse, évidemment. Hein, Deutsch 28.
Il avait 15 ans.
Oui, voilà. Et là, les trois musiciens ont joué ça comme s'il s'agissait d'une discussion entre eux, une espèce de discussion où alterner tendresse et énergie. Un beau moment là aussi, très court. Hein, c'est une pièce qui dure une dizaine de minutes.
C'était une mise en bouche, pour être
voilà,
dire,
exactement.
Une belle mise en bouche.
Voilà. Et puis, ensuite, c'était de Joseph Haydn, le trio avec piano numéro 39, un trio qu'il avait écrit pour Rebecca Schröter, qui était la dédicataire, en quelque sorte, avec les trois mouvements traditionnels. L'Andante, qui est un thème et variation très chantant, et puis un Poco adagio cantabile, qui est une sorte de rêverie, et puis un Rondo à la hungarese. Alors là, on retrouve vraiment le sens de la musique zigane qui pouvait de temps en temps apparaître dans les œuvres de Haydn.
Il est très beau ce mouvement d'ailleurs.
Ah oui, très beau. C'est un mouvement à la fois animé, joyeux, rebondissant, et que les musiciens ont joué apparemment avec grand plaisir, avec bonheur. Donc, un très beau moment là aussi. Et puis alors, ce que Jean-Sébastien Borsarello a appelé d'ailleurs le plat de résistance, puisque c'était lui qui présentait le concert, il faut le préciser.
Très bien.
Et très bien présenté d'ailleurs. Donc, avec le trio avec piano numéro 4 en mi mineur, dit Dumki, d'Antonin Dvorak, qui est vraiment une œuvre conséquente avec six parties, hein. Six Dumki, puisque c'est une Dumka au singulier, et puis Dumki au pluriel, nous a rappelé Jean-Sébastien Borsarello. Et donc avec des alternances par moments de duo, parfois simplement deux instruments qui jouent, et puis de grands contrastes expressifs avec à la fois la méditation et l'explosion. Et même au sein d'un même mouvement, il y a alternance entre mélancolie et exubérance. Et c'était très bien mené par les trois interprètes, avec des contrastes expressifs, par moments explosifs, effectivement. Et puis toujours une cohésion et un équilibre absolu du son entre les trois instruments. Très beau moment. Hein. C'est vraiment une œuvre qu'on n'entend pas très souvent en concert. Hein. Moi, j'avoue que je crois que c'est la première fois que je l'entendais en concert. On l'entend quelquefois retransmis.
Le Haydn avant, pareil. Hein. C'est pas
oui, oui, non, c'est pas très souvent joué. Donc, bravo à eux d'avoir choisi de jouer des œuvres qui ne sont pas les œuvres
les plus...
Ce qui
est souvent le cas au Clé de Saint-Pierre.
Oui, exactement.
Même.
Bravo. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce beau concert.
On a passé un très, très bon moment,
très bon
effectivement,
moment.
Dans cette belle chapelle des Carmélites qui se prête
oui.
très bien
à
ce genre de prestations en musique de chambre, vraiment formidable.
Et dans un cadre tellement magique.
Et bien voilà, nous allons pouvoir réécouter le très beau et très enjoué troisième mouvement Rondo à l'Hongarese du trio avec piano numéro 39 en sol majeur Gypsy de Joseph Haydn dans une version enregistrée par le trio Wanderer. Thank you. troisième mouvement rondo à l'ungarese du trio avec piano numéro 39 en sol majeur Gypsy de Joseph Haydn, ici dans une version du trio Van der Heer. Il va falloir maintenant attendre l'automne prochain pour retrouver les musiciens des Clés de Saint-Pierre. Le programme de la saison 25-26 devant être dévoilé d'ici mi-juin a priori. Voilà donc pour ce retour sur les concerts récents. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale et nous allons retrouver Serge Chosy et notre invité d'honneur Emmanuel Pellapra pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Nous allons donc largement consacrer l'agenda de Mélomanie à la 10e édition de Classique à Or avec son directeur artistique Emmanuel Pellapra ici présent. Je rappelle que le festival a lieu cette année du 18 juillet au 8 août. C'est évidemment un moment particulier pour vous parce qu'une 10e édition, c'est tout de même un cap et il faut marquer le coup, enfin, j'imagine.
Oui, j'allais dire, et déjà, le temps est passé sans qu'on l'ait vu filer à toute vitesse, mais voilà, on a essayé de concentrer dans cette 10e édition un petit peu tout ce qui fait le sel de notre programmation, c'est-à-dire des têtes d'affiche, des musiques connues, et puis des pages sorties de l'oubli.
Et tout ça dans des lieux du patrimoine lotois à Cahors, mais pas seulement, mais ça, on va y venir. On va tout de suite parler donc de cette programmation de la 10e édition. L'ouverture a lieu vendredi 18 juillet à 21h à la salle culturelle de La Prade à Pradine. Ça, c'est un lieu que vous fréquentez depuis déjà quelques années. Hein.
Oui, c'est une salle toute récente et sur Cahors, c'est un bel outil. Alors, c'est à côté de Cahors, dans l'agglomération, mais c'est un bel outil pour la musique. Et donc, les 3-4 derniers concerts qu'on a fait avec l'Orchestre du Capitole se déroulent là. Et je dois encore souligner l'amitié, la fidélité de l'Orchestre du Capitole qui ouvre toujours, c'est notre tradition, le festival, donc les revoilà avec un programme composé de la même façon, c'est-à-dire une ouverture, un concerto. Cette fois-ci on aura le plaisir d'entendre une des flûtistes solo, Mélisande Daudet, jouer un concerto de Mozart et puis une grande symphonie classique, cette année la 4e de Beethoven.
Alors Mélisande Daudet, on la connaît, Serge, parce que je pense que c'est elle qui a dû remplacer le regretté François Laurent en tant que flûtiste solo aux côtés de Sandrine Tilly. Hein.
Voilà,
jeune flûtiste, très brillante. Donc le concerto numéro 1 en sol majeur K313 pour flûte et orchestre de Mozart et la symphonie numéro 4 de Beethoven. Voilà déjà un beau programme classique viennois pour ouvrir. Concert suivant lundi 21 juillet à 21h. Cette fois-ci, vous allez à l'église Saint-Étienne de Tour-de-Fort. Je ne sais pas où c'est.
Alors, Tour-de-Fort, vous ne connaissez pas Tour-de-Fort, mais sûrement la ville qui est immédiatement à côté, qui est Saint-Cyr-la-Popie, qui est mondialement connue, si je puis dire. Et le lieu, on va dire, l'église la plus propice pour l'acoustique, c'est l'église qui est à côté, donc à Tour-de-Fort. Et là, nous accueillons un quatuor de Toulousains, de très jeunes Toulousains, qui s'appelle le quatuor Esquirol. Ils ne trahissent pas leurs origines. Oui. Et où il y a d'ailleurs trois sœurs, Alexandra, Laura et Pauline Lecoq.
Les deux violons et le violoncelle. C'est Pauline qui est au violoncelle, Alexandra et Laura qui sont au violon.
C'est bien, c'est ça, absolument. Et puis l'altiste Baptiste Donadio. Ils vont faire un programme autour des 4 saisons de Vivaldi, puisqu'on fête cette année le 300 ans de l'édition.
C'est pas de la composition, voilà. C'est de l'édition.
Mais c'est-à-dire c'est la diffusion vraiment de cette musique qui a envahi l'Europe entière à partir de cette année-là. Et donc on aura
des extraits, en fait, des 4 saisons de Vivaldi.
C'est ça. Et si je ne me trompe pas, ils feront l'hiver et le printemps en entier de Vivaldi. Et le pendant arrangé par Piazzolla. C'est-à-dire l'été et l'automne par Piazzolla.
Donc on aura bien les 4 saisons. C'est ça. Mais il y aura les 4 saisons hémisphère nord, les 4 saisons hémisphère sud.
C'est une belle idée.
Et aussi, il faut peut-être l'annoncer, comme c'est, vous l'avez dit, à côté de Saint-Cyr-la-Popie, il y a un concert au BAD qui est prévu à 18h, donc avant le concert du soir qui lui est à 21h à l'église Saint-Étienne de Tour-de-Fort. Et il y a une au BAD, c'est gratuit, à 18h à Saint-Cyr-la-Popie. Hein.
C'est ça, et c'est devant la maison de
André Breton hein, qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps par la Fondation du Patrimoine. Très beau lieu.
Je crois qu'il y a eu un incendie il y a pas longtemps, mais le concert est devant la maison, donc on ne sera pas empêché de le faire.
Deux jours plus tard, mercredi 23 juillet, c'est encore à 21h, concert de l'orchestre de la garde républicaine dans la cour de la préfecture à Cahors, dirigé par le colonel Sébastien Billard, en formation d'orchestre d'harmonie.
C'est
préciser,
ça. Hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs formations. Là, c'est la formation, on va dire, la plus traditionnelle, celle pour laquelle elle a été fondée, cet ensemble. Et Sébastien Billard est leur chef attitré. Il a succédé à Roger Boutry il y a déjà quelques années. Et voilà, ils ont une très belle politique musicale avec pas mal de transcriptions et puis de résurrection aussi de partitions écrites exprès pour eux. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un petit aperçu de tout ça, mais ils vont quand même jouer du Strauss, du Gounod, du Ravel et du Gershwin, donc ce sera un programme éclectique. Dans la cour de la préfecture, donc ça sera un concert en plein air, dans un lieu qui sonne très bien, qu'on a éprouvé depuis quelques années.
Oui, c'est pas une première
ouais,
du
ouais,
tout.
Ouais, hein, mais qui est très demandé par les cadurciens, donc voilà, on a beaucoup plaisir à aller là-bas. Et puis ça avait du sens que la garde républicaine soit à la préfecture.
Oui, oui, tout à fait. Alors on va l'écouter, l'orchestre de la garde républicaine. Il y a du Ravel au programme, je ne sais pas s'il y a le boléro, mais on va écouter le boléro de Ravel dans une version de l'orchestre de la garde républicaine. Le fameux boléro de Ravel dans une version de l'orchestre de la garde républicaine dirigé ici par le colonel François Boulanger, et c'était une version en orchestre d'harmonie. On reste dans la cour de la préfecture à Cahors pour le concert suivant, vendredi 25 juillet, toujours à 21h, où le public va avoir le grand plaisir de retrouver la jeune trompettiste Lucienne Renaud-Dinvary. Petite par la taille mais grande par le talent, elle est accompagnée par le Brass Band de Toulouse dirigé par Jean-Guy Olive. Et avant de nous présenter le programme de cette soirée, il faut peut-être d'abord nous présenter le Brass Band de Toulouse, Emmanuel.
Oui, alors c'est une formation qui compte en France. En fait, on a découvert les Brass Bands il y a peu en France, alors que c'est de tradition
c'est
dans les pays
d'Angleterre,
c'est ouais. Ça. En Angleterre, mais même je pense en Suède, en Norvège, ils connaissent ça depuis bien plus longtemps que nous. Et donc c'est un ensemble donc, de cuivres, mais à ne pas confondre avec un big band, bien sûr. Et il n'y a aucune trompette dans cet ensemble, c'est vraiment tous les instruments, les cornets, donc c'est un instrument un peu plus doux. Il y a des trombones, des tubas, euphonium, voilà, toutes ces familles de cuivres plus doux. Et voilà, il y a toute une tradition et tout un répertoire très particulier qui ont été écrits pour eux. Parfois, ça ressemble un peu à de la musique de film. Pareil, avec une tradition de transcription tout à fait intéressante. Et donc, ils connaissent bien Lucienne, ils ont fait plusieurs concerts avec elle. Et nous, on est très contents de la retrouver. Elle était venue il y a 2 ans pour un concert trompette et orgue. Et ça a tellement plu que on a beaucoup de plaisir à la faire revenir.
Elle est très très appréciée dans le milieu et depuis quelques années on la voit assez souvent dans la région autour de Toulouse et même à Toulouse, elle est venue quelques fois. Lucienne Renaudin-Varry qui en plus est une musicienne très sympathique. Dimanche 27 juillet à 20h, un concert dans un lieu magnifique, les jardins du peintre Henri Martin au domaine de Marquerolles à la Bastide du Vert, et vous y avez programmé l'ensemble Azul Quartet. Je vais vous laisser nous en présenter les membres et le programme qu'ils donnent ce soir-là.
Alors c'est un ensemble aussi qui est de la région et qui est spécialisé dans la musique populaire latino-américaine. Il est composé de 4 musiciens, Catalina Skinner qui chante, Pierre-Yves Binard, percussion et chant, André Da Silva à la guitare et Carlos Betan à la contrebasse. Et donc ils vont jouer dans ce jardin, donc peut-être que vous connaissez, si vous avez dit qu'il était magnifique, parce que c'est vraiment le cas.
Il a été restauré aussi d'ailleurs en partie par la Fondation du Patrimoine.
Exactement.
Et c'est un lieu qui a été racheté, je pense, il y a quelques années. Mais dont le propriétaire veut l'ouvrir, je crois même pour des résidences d'artistes. Il est musicien lui-même.
C'est Jean-Jacques Lala, pour ne pas le nommer. Très, très ouvert et très demandeur de ce genre de choses. Donc, c'est la deuxième année que nous y allons. Et là aussi, les mélomanes sont ravis de se retrouver dans ce cadre-là, très enchanteur.
Serge, vous connaissez Pierre-Yves Binard parce qu'il a plusieurs fois chanté avec les Sacs Boutiers.
Avec les Sacs Boutiers, oui, et avec son épouse.
Avec Catalina Skinner, qui est d'origine colombienne.
Exactement, oui.
Voilà, un couple très talentueux.
Et sympathique. Oui.
Alors, un autre lieu encore, lundi 28 juillet à 21h pour le premier concert à l'auditorium du Grand Cahors. Vous allez y participer vous-même, Emmanuel Pellapra, associé au pianiste et pianofortiste Jérôme Grandjean. Vous serez accompagné par l'Orchestre de chant de Toulouse. Le programme est sous-titré « Entre cordes et marteaux, clavecin et pianoforte en dialogue ». Expliquez-nous ça, parce que ça, sur le papier, ça paraît un petit peu insolite.
Alors oui, parce qu'on est allé dégoter des pages vraiment très particulières qui associent donc le clavecin et le pianoforte. Dans l'image populaire, on a tendance à penser que le pianoforte a supplanté petit à petit le clavecin, ce qui est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais parfois, ils ont cohabité. Il y a quelques pages écrites par des compositeurs français pour clavecin et pianoforte, et il y a surtout le grand concerto écrit par Carl Philipp Emanuel Bach pour pianoforte, clavecin et orchestre. Mais en France, on a aussi des pages, notamment un compositeur français qui s'appelle Jean-François Tapré, qui a vécu d'abord sous l'Ancien Régime et qui a écrit plusieurs symphonies concertantes, qui dormait à la Bibliothèque Nationale de France et que je me suis employé à ressusciter. Donc,
c'est là que le musicologue intervient.
Et oui. Mais bon, ça fait partie de mon ADN et c'est de la très belle musique, alors classique, c'est-à-dire un peu dans le style de Mozart, ça ressemble.
Il est contemporain de Carl Philipp Emanuel Bach,
tout à fait. Et même les œuvres ont été écrites quasiment à 2 ou 3 ans près. C'est le même style, mais c'est pas le même langage. C'est un peu plus romantique déjà chez Carl Philipp, avec un peu plus d'élan, tout ce qu'on connaît de ce grand compositeur. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant. C'est presque une pierre qui manquait à l'édifice de l'histoire du clavecin et du pianoforte. Retrouver ces deux instruments unis, pour moi, c'est assez fantastique.
Mais en fait, ça va être la création mondiale, si j'ai bien compris, de l'œuvre de Tapré. Elle n'a jamais été donnée en concert.
Oui. Alors, il y en a une qui a été donnée, mais il en a écrit 4, et donc on va en faire plusieurs qui n'en ont pas été données, effectivement. Oui.
Donc il y en aura plusieurs.
Oui. On va en faire moins
de. Œuvres qui durent combien de temps?
C'est des symphonies concertantes qui durent un quart d'heure à peu près, chacune. Voilà.
Sachant que l'œuvre de Bach, de Carl Philipp Emanuel Bach, est plus longue.
Elle est un petit peu plus longue, elle doit faire 20-25 minutes, oui. Il y aura de quoi faire une belle soirée.
Non, mais ça fait vraiment partie des découvertes que vous permettez de faire chaque année à Classique à Or. Et ça, vous y tenez beaucoup. Je parlais de votre passion musicologique, mais là, on est en plein dedans.
Alors, j'ai oublié d'annoncer une grande nouvelle, mais cette année, on a un partenariat avec France Musique. Et je pense que ça fait partie de ces affiches qui ont retenu je ne suis pas dans leur tête, mais j'imagine que...
Vous êtes les seuls enfants.
Voilà, c'est ça.
Donc,
on a vraiment cette chance d'avoir ce partenariat. Et c'est grâce à, j'espère, des affiches comme ça qu'on les a intéressés.
Et pour se faire une idée du programme pour le moins original de ce concert du 28 juillet, voici un extrait du concerto pour clavecin et pianoforte de Carl Philipp Emanuel Bach.
Thank you.
Concerto pour clavecin et pianoforte de Carl Philipp Emanuel Bach dans une version du Concentus Musicus Wien dirigé par Nicolas Arnoncourt et un autre lieu encore pour le concert du mardi 29 juillet donné aussi à 21h dans la cour de l'archidiaconé à Cahors. Vous y êtes de nouveau sollicité, Emmanuel Pellapra, mais à l'orgue expressif cette fois, pour accompagner la grande violoncelliste Ophélie Gaillard. Ce sera dans quel programme ?
Alors, c'est un programme que l'on a donné à tous les orgues cette année. J'avais vraiment envie de le proposer à nos auditeurs. Et c'est donc un programme romantique entre œuvres allemandes et françaises. Pour citer quelques noms, par exemple, il y aura Forêt, la première version de la romance qui est écrite pour violoncelle et orgue, et du Camille Saint-Saëns. Tout ça est de la musique originale. Et pour la musique allemande, on jouera des compositeurs peut-être un peu plus méconnus, Merkel, Reinberger, qui font partie de ces compositeurs dans les duchés contemporains de Brahms, en fait, et qui est de la très très belle musique. Et Ophélie jouera une suite de Bach aussi.
Oui, alors à la suite numéro 3, des extraits, pas toute la suite, hein, je crois qu'il y aura le prélude, la sarabande, la gigue.
C'est ça, exactement. Et peut-être un petit clin d'œil toulousain, on jouera la très belle pièce d'Aimé Kunk,
ah oui.
L'Andante religioso, et une curiosité aussi de Fernand de Decruc. Peut-être que...
Fernand de Decruc, alors je ne vais pas dire de bêtises, elle n'est pas originaire de Gaillac.
Si, absolument. Et son nom de jeune fille, c'est Braille, mais elle s'est mariée avec le saxophoniste Decruc.
Oui, elle a beaucoup écrit pour le saxophone.
Et pour cause. Et encore aujourd'hui, elle est jouée dans le monde entier. Aux États-Unis, on joue beaucoup Fernand Decruc. Elle a écrit des pièces pour violoncelle et orgue, donc on va les jouer.
Oui, Fernand Decruc, je crois me souvenir qu'il y a quelques années, une de ses pièces avait été jouée. Alors je ne sais plus dans le cadre de quelle saison. Une pièce avait été jouée et je pense que c'était une pièce pour saxophone d'ailleurs. Je vais pouvoir vous faire entendre le violoncelle d'Ophélie Gaillard dans un extrait de la romance Opus 69 de Forêt. Il s'agit d'une version avec piano.
Thank you.
Ophélie Gaillard jouait la romance opus 69 de Gabriel Fauré, accompagnée ici au piano, mais c'est avec vous, Emmanuel Pellaprat, à l'orgue expressif qu'elle va interpréter cette pièce lors de votre concert du mardi 29 juillet à 21h dans la cour de l'archidiaconé à Cahors, samedi 2 août pour le concert suivant, encore à 21h, concert donc dans un autre lieu du patrimoine religieux cadurcien, l'église Saint-Barthélemy, où l'on retrouve l'orchestre de chambre de Toulouse, mais sous la direction, alors ça c'est un peu inattendu, de Jean-Marc Andrieux, le directeur artistique des Passions de Montauban, pour interpréter le Gloria et le Magnificat de Vivaldi. Alors Jean-Marc, qui dirige l'Orchestre de Chambre de Toulouse, ça va être une première, ça.
Ah bon, bah, écoutez, tant mieux.
Écoutez, je ne sais pas, mais moi, Serge, vous avez le souvenir d'avoir vu Jean-Marc diriger l'Orchestre de Chambre de Toulouse, je ne crois pas.
On est ravis que ce soit chez nous, alors, parce que nous sommes assemblés une évidence de le faire venir. C'est quand même un des grands spécialistes de la musique baroque dans la région. Et donc, il va chapeauter le cœur du festival. Ce sont des gens qui viennent de la France entière pour travailler pendant une semaine sous
donc,
sa direction.
Stage, en fait.
C'est ça, exactement. On a 80 personnes qui viennent vraiment de toute la France. Je lance un appel, on a encore quelques places pour les hommes.
C'est souvent
vous en douter,
d'hommes qu'on manque dans les cœurs.
Absolument, c'est systématique.
Voilà, mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de monde inscrit. Et donc, pendant une semaine, ils vont travailler le Magnificat et le Gloria de Vivaldi, restitué sous la direction de Jean-Marc Andrieux avec l'Orchestre de Chambre, comme vous le disiez.
Puis deux solistes femmes que vous connaissez bien, surtout une.
Oui, mais Sonia Saint-Péra fera
la soprano. Voilà. Et puis, on va retrouver Catalina Skinner en alto. La brune et la blonde, c'est parfait. Gloria Magnificat de Vivaldi, avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse sous la direction de Jean-Marc Andrieux et le chœur de l'Académie du Festival. Pour le concert du dimanche 3 août à 21h, on reste à l'église Saint-Barthélemy de Cahors et on reste avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse et on reste avec Vivaldi pour l'intégrale de ces fameuses 4 saisons. Et la soliste de cette soirée, eh bien, c'est la jeune violoniste toulousaine Manon Galli. Ben voilà encore une musicienne issue des rangs et de la formation du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse qui fait une magnifique carrière, Emmanuel.
Oui, on peut dire un des premiers sommets, ça a été sa victoire de la musique en 2022.
En 2022, effectivement.
Voilà. Et bien, comme on le disait, c'est les 300 ans de la diffusion de ce chef-d'œuvre intemporel que sont les 4 saisons. Donc on est très heureux de les entendre interprétées par Manon.
Oui, pas la peine de la présenter, cette œuvre. Je pense que tout le monde l'a dans l'oreille. Ça, c'est l'avantage. Et puis, on est content de retrouver encore Manon Galli. Ben, Serge, on voit décidément.
Oui, absolument, souvent.
À Toulouse, autour, tout le monde se l'arrache. Et voici maintenant un autre lieu de ce festival 2025 pour le concert du lundi 4 août à 20h, donné en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est ça ? C'est pas un doublon, c'est Saint-Pierre-Saint-Paul.
Oui, c'est ça.
À Cayac. Où se trouve Cayac ?
Cayac, c'est un petit peu au nord de Cahors. C'est un petit village. Il doit y avoir une centaine d'habitants, mais avec une église magnifique. On rentre peu de monde, mais l'acoustique est vraiment merveilleuse. On avait eu Gabriel Rignol il y a 2 ou 3 ans dans cette église, et vraiment, ça nous a donné envie d'y revenir. On a un programme interprété par l'ensemble L'Alba, consacré à la musique sacrée et profane en Espagne et en Occitanie. Toujours dans d'ouverture et de découvrir des musiques qu'on a moins l'habitude d'entendre. On va retrouver certains interprètes d'autres concerts, Pierre-Yves Binard, Catalina Skinner, chant percussion, harmonium indien, et puis un spécialiste du luth, Psalterion, et qui jouera des cloches aussi, monsieur Grasset Saruvatari.
Ouais, Jodel Grasset Saruvatari, que j'ai eu l'occasion d'entendre avec d'autres formations dans la région, très beau trio, hein, Catalina Skinner, Pierre-Yves Binard et Jodel Grasset Saruvatari. Pour ce concert du 4 août à 20h à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Cayac. Grande soirée de gala mardi 5 août à 21h dans la cour de la préfecture à Cahors avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles et le claveciniste Justin Taylor. Je ne sais toujours pas s'il faut dire Justin Taylor ou Justin Taylor, mais il est bien français, même s'il a un nom anglo-saxon. C'est un des grands talents de la jeune scène baroque française actuelle qui n'en manque pas pourtant. Et au programme, il y a du Bach et encore du Bach. Mais il n'y a pas seulement Jean-Sébastien Emmanuel. Il y en a un autre, et ce n'est pas le plus connu de la famille. Hein.
Oui, c'est un cousin, donc Johann Bernhardt. Mais l'essentiel du programme va être quand même consacré au concerto pour clavecin et orchestre de Jean-Sébastien. Donc, voilà,
il y en a trois, hein, qui sont
oui,
au programme.
Oui, c'est ça, exactement. Et je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on avait eu les concertos avec le même orchestre, les concertos pour violon, avec Théotime Langlois de Swartz. Et voilà, donc là, c'était un peu le pendant de cette de leur aventure.
Très bien, ces
oui,
deux-là, en plus,
oui,
hein.
Oui. Ils sont dans l'ensemble le consort. On sait d'avance que ce sera une soirée de qualité et vraiment très recherchée.
C'est un magnifique musicien, Justin Taylor. Donc il y aura les 3 concertos pour clavecin de Jean-Sébastien Bach, c'est le BWV 1058, le 1056 et le 1052. Et puis donc, il y aura 2 œuvres de Johann Bernhard Bach.
Oui, alors je vous avoue que je vais découvrir. Oui, c'est ça, mais.
Jean-Sébastien.
Alors, grande famille, hein, les Bach.
Oui, parce que ça commence avant Bach et puis ça se prolonge bien après Bach.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on entend surtout les fils de Bach et très peu les cousins ou
les oncles parfois.
Ouais, le grand-père. Ben voilà, à côté de chef-d'œuvre intemporel, on aura ces découvertes aussi. Ça nous ravit, vous pouvez l'imaginer.
Ouais, et il faut que l'on fasse entendre le clavecin de Justin Taylor dans cette émission. Le voici qui interprète le prélude de la suite anglaise numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Le prélude de la suite anglaise numéro 2 de Jean-Sébastien Bach dans une version enregistrée par Justin Taylor, avant-dernier concert de la 10e édition de Classique Cahors, jeudi 7 août à 19h, c'est un horaire inhabituel, dans la cour de l'archidiaconé où se produisent une nouvelle fois les chanteurs Pierre-Yves Binard et Catalina Skinner, associés à Jodel Grasset Saru Vatari, qui lui va officier à l'oud, aux luttes, au psalterion, mais aussi en tant que conteur dans un programme intitulé, je vais mal le prononcer, je sais, Jaume Soul Camine. Il s'agit en fait d'un conte médiéval en musique, Emmanuel. Hein,
c'est ça, tout à fait. Voilà, c'était pour changer aussi le format un peu des concerts traditionnels et on est parti sur cette idée de conte médiéval. Donc on est très content. Je précise que la cour de l'archidiaconé, c'est la cour qui jouxte la cathédrale et le cloître. Donc un lieu aussi magique. C'est du plein air, mais vraiment dans des conditions superbes.
Et on aura encore ce trio-là qui, décidément, va être mis à forte contribution durant tout le festival. Et puis donc, concert de clôture du festival 2025, vendredi 8 août à 21h à la cathédrale Saint-Étienne à Cahors. Et c'est l'ensemble Les Surprises, fondé et dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas, qui a l'honneur de le donner avec un programme de folie baroque.
La musique de l'Europe entière, baroque. On rappelle que baroque, ça signifie pierre irrégulière et que c'est souvent associé à quelque chose d'un peu fantasque. Donc je crois qu'ils sont allés complètement dans cette idée-là. On n'a pas encore le programme détaillé, mais comme le nom le suggère, on aura de belles surprises. Et peut-être dire un mot sur la soliste de la soirée,
bien
qui
sûr.
Sera Eugénie Lefebvre. Donc une soprano vraiment magnifique, qui est un peu sur toutes les scènes en ce moment. Donc voilà, on est heureux de l'accueillir.
Et l'ensemble des surprises, en fait, c'est pas un ensemble à grande dimension. Hein.
Ah, oui,
ils vont être 3 ou 4.
Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est pour ça, dans la cathédrale, ça sonnera très bien.
Il y aura de la viole de gambe, théorbe et guitare, Gabriel Rignol, que vous avez déjà reçu.
Absolument, très beau théorbiste. Et puis le clavecin.
Noël, Bestion de Camboulas au clavecin et à la direction.
Oui,
et
c'est un concert
intime. À la viole de gambe, voilà, très très beau concert. Bon, il y aura du Maramarais, forcément.
Oui, on imagine.
Mais après, il y aura d'autres compositeurs comme Henry Purcell, a priori, Lully, Couperin, et puis d'autres moins connus. Donc, il y aura à la fois des découvertes et puis des noms que nous connaissons tous. Pour conclure cette présentation de la 10e édition de Classique Cahors, on va écouter l'ensemble Les Surprises, interprété Enfin, il est en ma puissance, une pièce de Lully. Enfin, il est en ma puissance, une pièce composée par Lully, interprétée par l'ensemble Les Surprises. Elle est au programme du concert de clôture de la 10e édition de Classique Cahors, vendredi 28 août à 21h à la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Voilà donc pour la programmation du festival 2025. Vous vouliez nous annoncer un concert qui a lieu avant le festival. C'est pas que le festival Classique Cahors.
En tout cas, c'est une production Classique Cahors. Nous faisons un concert en hommage à Michel Legrand le 12 juin 2025 à la salle La Prade, donc juste à côté de Cahors.
À Pradines,
avec l'orchestre de chambre de Toulouse. Donc il y aura un orchestre, il y aura des chanteurs, il y aura un piano, enfin percussions, etc., etc. Donc une belle soirée en perspective, 12 juin 2025 à La Prade.
Vous avez l'horaire, c'est quoi, c'est 20h30?
Je crois que c'est 20h.
20h, voilà.
Vérifiez
sur internet, sur le site de Classique Cahors pour vérifier le 12 juin. Hommage à Michel Legrand et à ses musiques de films nombreuses. Serge Chose, il nous reste quelques minutes pour annoncer et présenter le dernier concert de la saison, Toulouse Guitare. Il a lieu dimanche 4 mai à 17h. La chapelle des Carmélites, où va se produire le guitariste tchèque Pavel Steidl, grand musicien, grand nom de la guitare.
Grand nom de la guitare, qui a obtenu un prix au concours international de Radio France à Paris en 1982, et il est devenu vraiment l'un des grands spécialistes à la fois de la guitare romantique et de la musique contemporaine. Et donc, au cours de ce concert, il va jouer des œuvres de Fernando Sor, Johann Caspar Merz, Ferdinando Carulli, Niccolo Paganini, vous voyez, hein, Luigi Legnani et Napoléon Coste. Donc voilà les nombreux compositeurs dont il jouera quelques pièces. Et puis la première partie du concert sera, comme elle l'est traditionnellement, assurée par un jeune musicien en cours d'études. Et là, il s'agira de Victor Meynier, âgé de 22 ans, qui est un passionné par les répertoires anciens et modernes et qui est étudiant à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, l'ISDAT, où il étudie d'ailleurs auprès de Benoît Albert, Rémi Jusselme et Thibaut Garcia lui-même.
Et on va écouter tout de suite Pavel Steidl dans le menuet en ré majeur de Fernando Sor. Thank you. le menuet en ré majeur de Fernando Sor, interprété par Pavel Steidel, sans doute l'une des pièces au programme du concert que donne le grand guitariste tchèque le dimanche 4 mai à 17h à la chapelle des Carmélites pour le dernier rendez-vous de la saison Toulouse Guitare. Les billetteries sont en ligne à l'adresse www.toulouseguitare.fr. Je signale également que l'Orchestre de Chambre de Toulouse donne ses concerts mensuels du mois de mai, lundi 5 et mardi 6 à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis mardi 27 et mercredi 28 à l'escale de Tournefeuille. Tout se commence à 20h30 et le programme est consacré à Vivaldi et la mandoline. Nous allons d'ailleurs avoir le plaisir d'y entendre le mandoliniste toulousain Julien Martineau. Les places sont à acheter et à réserver sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Et puis je rappelle que la 10e édition du Festival Classique Cahors a lieu du 18 juillet au 8 août à Cahors et dans divers lieux patrimoniaux du beau département du Lot. Nous avons présenté toute la programmation au cours de cette émission, mais vous pouvez en retrouver le détail sur le site www.classicaor.com où la billetterie est également en ligne. Merci à Serge Chosy d'avoir encore co-animé ce numéro avec moi et merci à Emmanuel Pellapra d'être venu du Lot pour nous présenter Classic Cahors 2025. Merci aussi à Jonathan Botello qui a assuré la réalisation de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à ceux et à celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.